Pénitence et sacrifice. Des hommes très simples, comme des têtes éminentes et des savants de l'histoire de l'Église, n'ont eu de cesse de raconter une parabole pour nous aider à accueillir le Seigneur en nous. Un pauvre paysan, habitant une cabane misérable, reçoit un jour la visite d'un messager royal qui lui communique que le roi veut venir chez lui. Sur le coup, le pauvre homme est heureusement surpris et en même temps désespéré. « Comment puis-je accueillir le roi dans ma petite cabane? Comment puis-je me préparer? Comment puis-je offrir à mon Seigneur une digne demeure? Que faire ?» Aussitôt, il commence à nettoyer la petite maison, à enlever la saleté, à éliminer désordre et négligence. Puis, il remarque que les meubles aussi petits et modestes sont indignes et ils s'en débarrassent. Et de penser, il vaut mieux un espace vide et propre que ce mobilier totalement indigne. Le roi arrive et sa présence illumine la cabane de sorte que tout semble être un palais. Il apporte son mobilier, tout devient majestueux parce qu'il apporte avec lui toutes ses richesses. Au commencement de chaque période de l'Avent, retentit la voix de Jean-Baptiste dans le désert. « Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Faites pénitence, préparez le chemin du Seigneur. » Tous nous entendons cette exhortation, et parfois nous sommes un peu dépassés. Que dois-je faire? En quoi consiste la pénitence qui, de quelque façon, doit me purifier et peut me rendre digne? La créature, en effet, n'est jamais digne du Créateur pour le recevoir. D'abord, nous pensons que nous devons le recevoir en nous. Mon cœur doit l'accueillir. Qu'en est-il de ma personne? Il n'y a pas de nature pure. Il n'y a qu'une nature déchue, qu'un cœur tordu, comme disait saint Augustin. Curvatum in se. Un cœur qui tend à être au centre de la propre vie. Aucun d'entre nous n'a une prédisposition impeccable. Il n'y a pas de nature idéale, de beau tempérament. Tous nous recevons à notre naissance un certain matériau, un certain corps et une certaine âme, et une composition d'âme et de corps, et c'est ce qu'on pourrait appeler le tempérament. Que faisons-nous de ce matériau? Qu'ai-je fait du matériau reçu, de mon tempérament? Quel est le résultat de cette élaboration, c'est-à-dire comment est mon caractère? Personne n'a le droit de penser que ce qu'il a reçu l'emprunt de façon définitive. Chaque matériau reçu a ses avantages et ses inconvénients, ses côtés positifs et négatifs. Pour tout matériau reçu, il y a toujours des qualités ou des dimensions dominantes qui mettent à l'arrière-plan d'autres qualités et les laissent sous-développer. Si quelqu'un est par nature un homme courageux, il inclinera moins à la douceur. Le bienveillant montre par nature peu de force. Le magnanime souvent n'est pas prudent et le prudent fréquemment pas magnanime. Laisser libre cours à la nature n'est pas une règle sûre pour trouver un équilibre. Bien au contraire, chacun d'entre nous doit se décider pour le développement laborieux de qualités qui se complètent mutuellement. Ni au sens du développement de nos potentialités, ni non plus au sens de l'échelle de valeur à absorber, à observer, on ne peut considérer ce qu'on a reçu comme quelque chose qui emprunt de manière définitive. « Je suis comme ça et il n'y a rien à y faire » est une idée reçue fréquente, mais fausse, qui ne correspond pas à l'essence spirituelle de la personne. La maturité humaine exige toujours une lutte décidée contre l'unilatéralité qu'apporte avec soi chaque caractère, et cet effort pour le développement des qualités qui laisse à l'arrière-plan le matériau reçu n'exténue pas non plus les impulsions préexistantes, mais il leur enlève le contrôle de la personnalité, intègre toutes les forces dans la totalité, et même les forces les plus basses sont humanisées par l'effort de l'esprit. Toute éducation, toute auto-éducation aussi, obtient un équilibre que l'on ne peut qualifier d'absence de profil. Cet équilibre pose le fondement qui fait irradier ce que chaque personne a de plus beau, de plus vivant. Le coléreux par nature doit apprendre la douceur. Celui qui est tranquille doit apprendre ce qu'est l'activité. Le sentimental doit être raffermé dans une atmosphère qui respire la force. Il nous faut toucher ce qu'on nomme le juste milieu, en quoi consiste le bon, le juste, le vertueux, coup heureux de l'archer tiré entre deux extrêmes, entre trop et trop peu. Il faudra lutter toute sa vie, combattre jusqu'au dernier jour toutes les manifestations d'égoïsme, chercher l'équilibre. Car là où le caractère ne surmonte pas les unilatéralités, là est empêchée ou restreinte la nécessaire ouverture, là meurt le désir et par là aussi toute tentative de préparer les chemins du Seigneur. En cette époque d'utilitarisme, ce qui est utile est bon, et d'abondance, qui aujourd'hui sait en effet ce qui suffit. Les besoins ne cessent de croître. En cette époque de sensualité débridée, cette recherche de la mesure, de la discipline, du recueillement, de disponibilité intérieure devient le premier commandement pour la découverte de soi, le perfectionnement de la personne, la maturation de la personnalité et la rencontre avec Dieu, ou pour mieux dire, la réceptivité envers le Seigneur. Il vient, dit le cœur, comme dans le Cantique des Cantiques. Il est là, déjà, devant la porte qui frappe. Il est dehors dans la nuit, le froid. Ouvre, réveille-toi. La cèse signifie entraînement ou pénitence. Ce n'est pas un luxe pour ermite, mais une grande nécessité en notre époque. Car sans elle surgissent partout vide spirituel, ennui, égoïsme, maladif, fragmentation de la personne, dépression et désespoir. Mais nous, les chrétiens, nous nous savons appelés à cet exercice, à cet entraînement, à cette pénitence, pas seulement pour des raisons psychologiques, pour atteindre l'équilibre. Saint Thomas d'Aquin a remarqué que ce juste milieu ne représente pas une équidistance entre trop et trop peu, mais qu'il se trouve en chaque cas plus près d'un extrême que de l'autre. La tempérance se trouve plus proche de l'extrême de la frustration et de l'extrême de l'immodération. Entre le rien et le tout, le milieu est plus proche du rien. La générosité est plus proche de la dissipation que de l'avarice. La patience plus proche de la passivité que de l'agitation. La vaillance plus proche du risque que de la lâcheté. On doit s'efforcer d'améliorer son propre caractère. Et c'est la première des pénitences. Autrefois, on en a beaucoup parlé. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais nettoyer mon espace intérieur me sert à préparer le chemin au Seigneur. Nous avons pour cela des motivations toutes divines. Le Christ est venu pour nous guérir, pour nous sanctifier, et il a réalisé l'œuvre de la rédemption, de la libération, justement par sa croix, par son obéissance, en adoptant la forme d'un serviteur. Saint Paul dit, prenant la condition d'esclave, de sorte qu'il est devenu serviteur des hommes. C'est quelque chose de stupéfiant, de déconcertant, d'incroyable, mais c'est la réalité. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Adopter cette attitude de fond pour toute la vie est l'exercice le plus grand, la pénitence la plus grande pour notre orgueil, notre égocentrisme et notre sensualité. Nous recevons le Christ dans notre vie dans la mesure où nous participons de cette attitude. Saint Paul dit que chacun d'entre nous doit compléter dans sa propre vie les souffrances du Christ, qu'il a à compléter dans son existence ce qui manque encore dans la croix du Seigneur. On doit comprendre le sacrifice. La vie entière est un sacrifice au sens le plus profond du terme, non seulement dans le sens de la souffrance, mais au sens d'immolation en vue de glorifier Dieu et du salut du monde. Il se donne pleinement et entièrement. Le Seigneur de l'histoire se donne en sacrifice. Notre vie doit être aussi un sacrifice. Non que nous fassions seulement de temps en temps un sacrifice. La vie entière doit devenir un sacrifice, doit devenir un service. Cela signifie la pénitence de l'égolâtre, de l'orgueilleux, de celui qui veut s'affirmer. Ce sont les pénitences principales, les sacrifices principaux. Qui ne lutte pas pour l'amélioration de son caractère, qui ne sacrifie pas quelque chose de sa propre vie pour avoir un meilleur caractère, être plus accueillant envers Dieu et le Seigneur, ne peut accomplir la vocation chrétienne. C'est la première des choses, préparer le chemin du Seigneur. Lutte pour améliorer ton caractère, qui ne combat pas avec de bonnes motivations, sa propre paresse, son égoïsme, sa vanité, pour être plus réceptif, plus agréable à Dieu et au prochain, n'a pas fait le sacrifice principal. Plus important encore que cet effort en vue d'améliorer sa propre personnalité est l'accomplissement de ses obligations au foyer, au travail, dans la société, dans l'Église. L'accomplissement du devoir est le premier sacrifice à offrir. Non pas seulement que l'on ait à être plus diligent, plus exact, plus ponctuel, mais que l'on ait tout particulièrement à respecter la hiérarchie de ses obligations. C'est quelque chose d'objectif, mais cela peut changer selon la situation. Cela n'a aucun sens, comme le soulignait Saint José Maria, d'aller à la messe et de laisser son fils, sa fille ou son conjoint malade à la maison. Respecter une juste hiérarchie signifie souvent aussi un sacrifice. Accomplir mon devoir exigera de moi une grande souplesse, une disponibilité sans limite, une disposition à changer qui est rare en ce monde. Tout cela a beaucoup à voir avec l'amour. L'amour est-il un devoir ? Oui, mais un devoir très particulier. Car lorsqu'on accomplit un devoir par amour, on ne ressent pas ce devoir comme un devoir. C'est de tout son cœur qu'on s'engage quand on aime. L'amour est une façon très particulière d'accomplir son devoir. Qui aime se sacrifie. Il n'y a pas d'amour qui n'exige pas de renoncement. Il n'y a pas d'amour comme don de soi qui ne comporte pas quelque frustration. Mais si en union avec le Christ on veut configurer sa vie entière comme sacrifice, alors toute notre vie est un devoir d'amour. Il y a chaque jour des milliers de petites choses que l'on peut qualifier de sacrifices, mais qui sont amour. Sourire quand on est fatigué ou quand on est très occupé et qu'on est dérangé. Porter attention à l'ordre matériel. Ne jamais perdre le calme. Chasser les rêveries. Agir avec douceur et décision en même temps. Utiliser tout le temps de travail sans interruption, laisser le dernier mot aux autres dans les discussions, et ce, sans jouer les personnes supérieures. Éviter l'ironie, n'humilier personne, ne jamais dire « ça, je l'ai déjà dit », s'abstenir de commérages et de murmures, oublier les marques d'indifférence des autres, ne pas ruminer, rendre service sans se mettre en lumière, se dépenser sans compter, sans jouer les héros. Ce sont de beaux sacrifices parce qu'ils sont amour. Saint José Maria disait toujours que les meilleurs sacrifices sont ceux qui exigent de remplir ses devoirs et d'aimer le prochain. Tout ceci est œuvre humaine. Et toutes les œuvres des hommes sont limitées et de quelque façon discutables et souvent étroites et mesquines. Le meilleur sacrifice dans notre vie, c'est Dieu lui-même qui l'inventera et c'est lui qui me l'imposera. Il sait exactement ce dont j'ai besoin pour être meilleur, pour surmonter mon égoïsme, pour réfréner ma sensualité. il me l'imposera de telle ou telle manière, et il me faudra alors l'embrasser, et ce sera la meilleure purification de mon cœur et amélioration de mon caractère. Surtout, c'est l'acceptation de la croix du Seigneur qui m'unira le mieux à lui. Sur la croix, disait Saint José Maria, nous sommes pleinement conformés à lui, et la croix sera une maladie, une déception, une heure de désolation, et même une heure de paralysie ou de dégoût, de peur. Ce sont des choses que je ne peux pas planifier. Lui me fera une croix à ma mesure, car il a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. D'où la nécessité d'être prêt en ce sens et de demander cette clarté pour reconnaître sa visite, pour embrasser sa croix. Si nous faisons cela, alors nous serons prêts, lui viendra à nous et nous sanctifiera.